Émile Blémont, La demoiselle du Moulin. Quand les Allemands investirent Paris en 1870, ils occupèrent le bourg de Marfleury sur la petite rivière Livrine à 7 ou 8 lieues de la capitale. La garnison s'y renouvela fréquemment pendant les premiers jours du siège. Au bout de quelque temps, on y laissa à demeure un corps d'occupation peu nombreux, sous les ordres d'un résident civil et d'un lieutenant. Les soldats essayèrent de se familiariser avec les habitants et les habitantes. D'abord, ils apprivoisèrent les petits-enfants par leurs caresses et leur apparente bonhomie. Mais ils virent bientôt les enfants même s'écarter d'eux, et, sauf quelques rares exceptions, ils ne rencontrèrent partout qu'un accueil parfaitement glacial. On les voyait errer au bord de l'eau ou sous les grands arbres de la promenade, les pieds symétriquement lourds, le corps roide, la tête droite et carrée sous le casquette de petite tenue, une branche cassée à la main, un cigare noir à la bouche, et dans les yeux une sorte de lente et machinale rêverie. Le lieutenant, jeune homme de famille noble, était sérieux, bien fait, suffisamment instruit, avait des manières distinguées, parlait sans accent notre langue. Il s'ennuyait de cette interminable guerre, écrivait le plus de lettres qu'il pouvait et trouvait encore de nombreux loisirs. Souvent, il prenait un bateau et descendait le cours de Livrine en compagnie d'un sous-officier favori avec lequel il partageait les cigares qu'il se faisait adresser. Sur Livrine, il y a un moulin. Le meunier était un gros courteau, tête dans les épaules, cheveux ras et grisonnants, large face, large bouche, teint sanguin sous le hâle, menton empâté, œil à fleur de tête. La famille du meunier se composait simplement de sa femme et de sa fille. Madame la meunière, personne d'une quarantaine d'années, longue et maigre, avait le visage mat, l'œil clair et sec, les lèvres minces, le front étroit, l'air âpre et envieux. Pour la demoiselle du Moulin, c'est ainsi qu'on disait dans le pays, elle ne ressemblait guère à ses parents. Amédine était fraîche comme le mois de mai, belle comme la première rose du printemps, et douce comme une petite fauvette. Sous ses cheveux blonds, elle avait la grâce et le charme. Sa mère, fort ambitieuse, l'avait mise à 12 ans dans un couvent de premier ordre. Elle y était restée 3 années, sans apprendre ni oublier beaucoup de choses, et était revenue aussi franche, aussi naïve, aussi simplement belle, mais un peu plus songeuse, régnait comme une petite fée sur l'écume argentée qui sortait de la roue du moulin. Le lieutenant Karl descendit un jour la rivière jusqu'à la prairie du Meunier et vit la jeune fille. Il revint soudain, la revit plusieurs fois, et se sentit bientôt tout à fait épris d'elle. D'abord, il ne voulut pas se l'avouer, mais quand il lui fut plus possible de se cacher son amour, il s'efforça de le vaincre. Tout conquérant qu'il fût, il n'y réussit pas. Les petites boulottes qui avaient jusque-là brillé dans sa mémoire pâlirent, s'évanouirent devant les yeux bleus de l'étrangère. C'en était fait. Il était amoureux, profondément amoureux. Il en fut humilié, il en fut irrité. Il songea à enlever Amédine de vive force. Cela lui parut vite absurde. Il tâcha d'oublier, mais il voulut demander un changement de résidence. Mais l'image d'Amédine lui restait au cœur, et il entendait en rêve le son de sa voix fraîche et pure. Et quand la passion eut complètement envahi l'envahisseur, quand elle eut exterminé les souvenirs gênants, les scrupules et les hésitations, il ne pensa plus qu'à une seule chose, il n'eut plus qu'un but, se faire aimer. Pour s'introduire dans la maison, il déploya une diplomatie digne du premier ministre de son roi. Il fit espionner, espionna lui-même, apprit les habitudes de la famille, sut le caractère du père, celui de la mère, leur côté faible, se concilia les deux paysans qui travaillaient au moulin, caressa les animaux, échelonna ses progrès, et finalement parvint à entrer dans la place. Le meunier avait une passion, celle de l'argent. La meunière n'était pas moins intéressée que son mari. Elle caressait un idéal, faire de sa fille une dame, une riche et belle dame, qui pût mépriser père et mère. Les temps qu'on traversait étaient durs, en vérité. On était singulièrement gênés au moulin. Une mauvaise spéculation avait emporté la plupart des économies de la maison. Les avarices et les ambitions aigries fermentaient au cœur de ces petites gens. Amédine fleurissait sans souci de telles choses, mais parfois, la nuit, elle pleurait en entendant les coups redoublés des canons du siège. Karl gagna vite les bonnes grâces du père et de la mère. Il les flatta, leur força la main pour leur faire gagner de l'argent, se montra désolé de la guerre, dit du mal des rois et des empereurs, du bien de la France et de l'Allemagne, et soupira longuement après une paix loyale et la prochaine. Il devint l'hôte coutumier du moulin. Amédine sentit tout de suite qu'elle était aimée de lui et que c'était pour elle seule qu'il venait. Elle perdit sa gaieté, n'eut pas l'air de comprendre et ne cessa de se montrer froidement réservée, dédaigneusement distraite. Elle eut beau faire, Karl, oisif et déconcerté, s'enfonçait de plus en plus dans son amour. Il avait d'abord songé à un enlèvement, puis à une séduction. Il était absorbé maintenant par une sérieuse et mélancolique rêverie. Amédine restait indifférente. Cependant, Paris affamé capitula. La paix fut signée. Les Allemands durent évacuer Marfleury. Avant de partir, car il fallait absolument partir, Karl ne put résister à la tentation d'ouvrir son cœur à la jeune fille. Il s'était toujours montré si respectueux envers elle qu'on ne faisait plus scrupule de les laisser ensemble. Ils étaient donc seuls dans le pré sur le bord de l'eau. Karl dit « Mademoiselle, nous allons bientôt vous quitter. »« Ah ?» fit-elle simplement avec une intonation qui signifiait « Plût à Dieu que vous ne fussiez jamais venu. »« J'en suis désespéré, » reprit-il après un silence. « Désespéré d'être victorieux ? Comme vous dites cela, on croirait que c'est moi qui ai déchaîné cette guerre. » Elle ne répliqua rien. Oh, vous ne nous aimez pas. Sous leur nouveau silence. Si l'un de nous vous aimait cependant de tout son cœur, de toute son âme, est-ce que vous ne voudriez pas même l'écouter ? Si l'un de vous avait ce mauvais goût, il ferait mieux de se taire. Pourtant, il faut que je vous parle. Oh, ne vous éloignez point, ne craignez-vous de moi. N'entendez-vous pas que ma voix tremble? C'est que je vous aime, oui, le mot est dit, je vous aime. Elle fit un mouvement d'incrédulité. Vous ne le croyez pas, vous ne voulez pas le croire. Et là, je quitte demain votre pays. Quand le temps aura commencé à faire oublier les misères de cette lutte funeste, je reviendrai. Je n'aurai plus cet uniforme qui maintenant vous irrite encore. Je vous reverrai si vous le permettez. J'aurai l'assentiment de ma famille et peut-être obtiendrai-je l'assentiment de la vôtre pour vous aimer. Adieu. Pensez à tout cela. Je serais être heureux que par vous, et pour vous, je sacrifierais tout ce qu'un honnête homme peut sacrifier à une femme. » Amédine le regardait fixement, elle ne répondit pas un seul mot. Une rougeur monta au front du jeune homme. Il baissa les yeux, avança un instant sa main comme pour prendre celle d'Amédine et la porter à ses lèvres. Mais il n'osa pas, salua gauchement et partit. Un an après, il revint. Il vit le meunier, la meunière. Il les invita à visiter sa mère qu'il avait amenée à Paris. Sa mère, devenue veuve à 30 ans, était une bonne petite femme, ronde et sentimentale. Elle l'adorait, s'était laissée endoctriner par lui. Karl exposa sa situation de famille et de fortune aux gens du moulin. Cela fait, il leur demanda nettement la main de leur fille, ou du moins l'autorisation de la lui demander à elle-même. Les bonnes gens furent ébahis. Il y avait devant eux un titre et des millions. Un peu revenus de leur ébahissement, ils finassèrent. Ils voulurent se consulter leur fille, et promirent une réponse dans un court délai. De retour au moulin, grande conférence entre eux, entre deux seuls, bien entendu. Ils réussirent à se convaincre mutuellement qu'il n'y avait aucun mal à prendre pour gendre un honnête Prussien, noble, millionnaire, et résolurent de se faire allouer une petite rente pour pouvoir vivre à Paris sans faire honte à leur fille. Mais un reste d'inquiétude les agitait. Que penserait-on dans le pays ? Ils allèrent voir le notaire, un vieux renard, toujours rasé de frais et pantalonné de noir. Le notaire entra en extase et demanda à rédiger le contrat. Ils allèrent ensuite chez le maire, épicier en gros et usurier en détail. Le maire s'écria, l'histoire entendue, « Mais parbleu, vous avez une sacrée chance. C'est pas mon imbécile d'Oscar qui, pendant sa captivité en Silésie, aurait songé à séduire une marquise. Mais en avant les violons !» Le soir, les deux époux bavardèrent fort tard, et la meunière but même un petit coup de cognac dans le verre du meunier. Le lendemain, elle prit Amédine à part. « Le lieutenant Karl est revenu, tu ne sais pas, fillette. Il est baron et très riche. Sa mère est venue avec lui à Paris. » « Vous l'avez vu ?»« Oui, il nous a parlé. »« Ah ? » !»« Tu ne devines pas ce qu'il nous a dit ?»« Peut-être. » »« Eh bien voyons, que devines-tu ? » ?»« Ben, il vous a parlé de moi. »« Justement. » « Veut-il toujours m'épouser ? Plus que jamais, il demande ta main. »« Je ne l'épouserai pas, ma mère. »« Mais comment ? Que dis-tu là ? » ?»« Mais jamais je n'épouserai un Allemand. »« Et pourquoi donc ? » ?»« Parce que je ne puis. Cela me semble défendu. » Insistance de la mère, dénégation absolue de la fille. Le père s'en mêla et ne fut pas plus heureux. Karl demanda à voir Amédine. « Qu'avez-vous contre moi ?»«
Rien. »«
Voyez-vous que je ne vous aime pas ?»«
Oh oui, je crois que vous m'aimez. »«
Et croyez-vous ne pouvoir être heureuse avec moi, qui ne pourrait être heureuse sans vous ?»«
Mais je ne puis vous épouser. »
À cause de la guerre.
Oui.
Et elle le quitta. Il courut après elle. Vous ne pourrez donc jamais me pardonner ? Elle tremblait.
Il m'a semblé, fit-il, que vous étiez bonne et franche. Ayez pitié de moi.
Il lui prit la main. Elle leva les yeux. Des larmes roulaient sous ses paupières.
« Je ne vous ai jamais dit, murmura-t-elle, que je ne vous aimerai jamais. Seulement, je ne puis être à vous. » je me mépriserai moi-même. Adieu. »
Ce fut tout. Le jeune homme ne put obtenir la moindre promesse, la plus faible espérance. Amédine resta songeuse, triste. Ses parents, dès lors, ne cessèrent de lui reprocher amèrement ce qu'ils appelaient ses sottises. Elle avait, disait-il, ruiné la famille. Elle fut plusieurs fois demandée en mariage et repoussa toutes les demandes. Elle dépérissait chaque jour. Elle s'alita, on désespéra de la sauver. Elle mourut. Le meunier et la meunière ne restèrent pas moins furieux contre elle. Ils répétaient quand on voulait les consoler. « Mais comprend-on une enfant comme celle-là ? Nous lui ayons tout donné, éducation, bien-être, bonne manière, et nous a fait banquer notre fortune. Oh, les enfants sont ingrats. Elle nous a ruinés, ruinés. » Le lieutenant Karl essaya d'oublier. Il se battit en duel pour une danseuse. Il fut tué net.